Aujourd'hui, place à une toute nouvelle exposition au Centre canadien d'architecture consacrée à Gordon Mataclark. Et oui, le fameux Gordon Mataclark, dont la critique radicale de l'architecture est passée à l'histoire dans les années 70. Alors, il est décédé prématurément à 35 ans. Alors, cette exposition propose de découvrir ou redécouvrir l'œuvre de cet artiste conceptuel formé en architecture en trois volets, donc une exposition en trois volets qui se poursuit jusqu'au 17 mai 2020 dans le cadre de l'événement, bien sûr, sorti du cadre. Mais dans l'immédiat, bien, nous allons nous entretenir avec Yann Chataigny, historien de l'art et commissaire qui va nous présenter le premier volet de cette exposition en trois temps, une exposition qu'on va pouvoir voir jusqu'au 8 septembre. Alors, voici l'entrevue en question.
Après cette pause musicale en compagnie de Bob Dylan et sa célèbre pièce « All Along the Watchtower ».
There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth.
Le Centre canadien d'architecture est l'hôte d'un événement très spécial, une exposition en trois temps dans le cadre de l'événement Sortie du cadre. Donc, exposition en trois temps sur l'artiste conceptuel et formé en architecture, Gordon Mataclark. Ben, je suis ravie de me trouver en bonne compagnie d'un des trois commissaires de cet événement. Yves-Yann Chataigny, bienvenue.
Merci, bonjour.
Première visite, première collaboration avec le Centre canadien d'architecture, ravi.
Oui, je dois dire que c'est des conditions d'invitation qui sont tout à fait uniques, puisque j'ai la chance d'avoir pu réaliser, à l'occasion de cette invitation, ma première résidence en tant que curateur. Donc en novembre passé, j'ai été invité à passer 10 jours dans l'archive de Gordon Mataclark, un artiste américain formé à la Cornell University en tant qu'architecte et qui, après ses études et son diplôme à la fin des années 1960, s'est engagé dans une critique et une critique en actes et en mots de l'idée même de construction, en inventant un ensemble de gestes artistiques, de gestes sculpturaux. Lui, il disait des performances sans public.
Écoutez, j'ai été fascinée. J'ai été fascinée de voir les performances auxquelles il a pu s'adonner, ce qui amène une déconstruction un peu hein, de la notion de l'architecture telle qu'elle était envisagée à l'époque. Oui.
C'est en effet même plus qu'une déconstruction. Lui qui aimait jouer avec les mots parlait en anglais de « unbuilding », donc on pourrait traduire peut-être cette expression non traduisible en « non-construction » ou « inconstruction », c'est-à-dire de travailler l'espace par la négative, de révéler le vide, de chercher à faire entrer dans les bâtiments par des gestes radicaux de découpe d'une maison en deux, de perçage d'une façade entière d'un immeuble, voire d'une découpe d'un immeuble entier, de part en part, de faire entrer l'air et la lumière dans l'habitation.
Et c'était révolutionnaire parce que c'était en fait un artiste conceptuel dans l'âme qui souhaitait appliquer son approche à l'architecture.
Oui, c'est un artiste qui était à la fois, en effet, très conceptuel, mais aussi très matériel. Oui. On pourrait dire que c'est un... Il disait lui-même qu'il était un anarchitecte.
Oh, que c'est intéressant comme combinaison de mots.
Oui. C'est-à-dire un architecte qui ne construit pas, mais qui révèle un inconscient de l'architecture ou fait entrer ce que l'architecture peut-être parfois rejette, c'est-à-dire l'instabilité, le monde réel extérieur, l'espace social et la vie dans la pérennité, la monumentalité de l'architecture pour privilégier des moments de rencontre, des gestes éphémères, des réutilisations, des détournements de bâtiments. Et c'est vrai qu'il y a une dimension dans son approche qui est, on pourrait dire, hautement iconoclaste, donc de détruire l'architecture en la perçant, en la trouant, en la découpant. Mais c'est aussi une manière de penser une forme de transformation de l'architecture en sculpture.
Tout à fait. Alors écoutez, de là, toute la pertinence de cette première exposition qui fait partie de trois étapes, c'est-à-dire les sources d'inspiration de Gordon Matta-Clark. Et elles sont absolument fascinantes. Là. Elles sont présentées écoutez, elles sont même emballantes parce que c'était un architecte de son époque. Donc, il suscitait, j'imagine, à travers tous ces éclats, ces interventions, ces expositions éclatantes, il souhaitait susciter une réflexion.
Oui, c'est vrai qu'on a été lors de la recherche dans cette archive, oui, très marqué par la richesse de sa bibliothèque personnelle. Et c'est le point de départ de cette exposition.
Quelle bonne idée, hein, alors. Et ce sont des livres d'époque.
Absolument. Oui. Et c'était, oui, c'était vraiment, on pourrait dire, ses outils de travail. Au même titre que quand il déconstruisait un bâtiment, il allait faire appel à une entreprise qui lui fournissait un échafaudage, une tronçonneuse, un marteau-piqueur. Les livres sont les outils conceptuels de ce qui préexiste à l'œuvre. Et l'exposition entend montrer toute cette documentation, cette matière, ce processus de pensée qui mène à la matérialisation de ces gestes artistiques, souvent de très grandes dimensions. Donc il y a vraiment l'idée de montrer qu'il y a une partie immergée de cet iceberg sous la croûte, on va dire, formelle du travail qui est passionnante et qui, on peut dire, reste quand même très méconnue.
Donc, de là toute l'importance de cette exposition pour faire découvrir toute la contribution de cet artiste qui, ma foi, était un artiste, architecte, visionnaire, je croirais, à l'époque.
On pourrait dire que c'est...
Sa façon d'envisager l'architecture, on dirait que tu es en train de se sexualiser présentement.
Il a, en effet, oui, réalisé des interventions artistiques qui ont marqué des générations d'architectes, oui, mais aussi d'artistes, aussi de designers,
oui,
qui ont posé très tôt des questions qui, il me semble, se posent vraiment encore aujourd'hui. La première, c'est certainement cette relation à la nécessité de créer du commun, donc d'imaginer des œuvres artistiques, architecturales, qui sont des lieux de rencontre entre des individus qui sont souvent séparés pour des raisons identitaires, communautaires, de solitude, et de faire de l'œuvre un moment de partage collectif.
Il était donc très inspiré par les espaces publics, hein, qui permet de créer cette rencontre-là. Peut-être nous donner un exemple concret qui est décrit dans l'exposition. Alors, ça fait sourire.
Ben
un fameux restaurant, peut-être?
Son œuvre, en effet, une de ses œuvres les plus connues est d'avoir imaginé un lieu qui s'appelait Food, qu'il a créé au début des années 1970 à New York, dans un quartier très populaire, et qui était pensé comme une sculpture, donc un restaurant dont tous les éléments étaient imaginés comme une œuvre d'art, depuis la place de la cuisine au centre de l'espace, jusqu'à la composition des menus imaginés par des artistes, jusqu'à la manière de penser vraiment la scénographie de l'ensemble du repas comme un rituel, une performance collective et qui était un lieu de, je pense, à la fois de réconciliation et aussi de création, d'imagination.
Tout à fait. Alors, ça tient aussi d'une approche résolument multidisciplinaire, hein? Ça tient du théâtre, de la performance, de l'art visuel, l'architecture. Alors, il y avait aussi cet aspect de son approche qui le caractérisait.
Absolument, et c'est vrai que Gordon Matta-Clark décrivait ses interventions comme des performances sans public. Et quand il coupait, par exemple, une maison en deux pour la neutraliser, enlever quelque part sa fonction et en faire une sculpture, c'était vraiment comme un geste chorégraphique. L'idée que l'œuvre d'art, c'est une préparation et que la coupe, c'est comme si on coupait un objet, un corps, ou comme si on découpait un morceau de nourriture, un gâteau, et qu'on le partageait pour en faire un moment de partage. La maison donc, de cette œuvre de 1974 qui s'appelle Splitting, dans la banlieue de New York, redevient tout à coup un lieu de rencontre, un lieu commun, un lieu ouvert.
Et visuellement, ça se présentait comment?
Ça se présentait comme une maison coupée en deux.
On peut en rire. Mais comment c'était reçu? Quelle était la réceptivité du public à l'époque? Je suis curieuse. Est-ce que ça déroutait le public ou le public était vraiment très intéressé, stimulé?
Ben, évidemment, le public était dérouté et Matta-Clark lui-même... était parfois interrogé par la manière dont son œuvre était reçue, parfois avec dérision ou parfois avec surprise par le public, car c'est vrai qu'il a là inventé des gestes inédits,
mais qui permettaient de repenser l'espace.
Oui, et puis le fait qu'il soit réalisé dans l'espace public était vraiment fait aussi pour interpeller un public qui n'était pas un public de musée, qui était un public de la rue.
Et c'était sûrement ce que souhaitait Gordon Matta-Clark, aller chercher ce public de la rue.
Oui, absolument. Oui. Et c'était dans cette idée que l'œuvre d'art, pour lui, était vraiment une manière d'intervenir, comme il disait, dans le tissu urbain, dans le tissu social, pour reconnecter ces parts qui étaient déconnectées. Et donc de retrouver une manière de penser le statut de l'artiste dans la société, un statut qu'il ne considérait comme ne devant pas être isolé ou à part, ou s'il était à part, il avait cette mission, en quelque sorte, de s'inscrire vraiment dans l'espace social et de le travailler, pas uniquement d'y travailler, mais de le travailler pour le transformer.
Ah, vraiment, artiste, architecte, mais aussi peut-être même intervenant communautaire. Il jouait plusieurs rôles avec grand plaisir, j'en suis persuadée.
Oui, et c'est vrai qu'on considère dans l'histoire...
Un vrai laboratoire.
Oui, que son travail est le laboratoire de ce qu'on a appelé plus tard des pratiques artistiques socialement engagées, qui sont devenues, à partir des années de la fin des années 1970, on va dire un domaine de recherche pour beaucoup d'artistes, notamment aux États-Unis, puis plus largement ailleurs, plus tard, qui vont se poser la question d'une société divisée et qui se divise souvent entre une haute et une basse culture, une culture de musée, une culture de la rue, mais aussi une société qui est divisée pour des questions de croyance, d'appartenance à différentes communautés et où le rôle de l'artiste est de créer des liens, de faire que les choses circulent et de créer du commun.
Oui, et de rendre accessible l'art et les expérimentations. Alors, est-ce que, à votre avis, est-ce que c'est la grande contribution de Gordon Matta-Clark, ce laboratoire qui a été créé et qui est très stimulant?
Bien, je pense que sa contribution est double, et c'est vrai qu'on ne peut pas réduire son œuvre à uniquement son engagement social, puisqu'il était aussi un sculpteur. Et je pense que les œuvres qu'il a produites existent, en quelque sorte, entre ces deux formes d'engagement. Un engagement qui était politique, social et communautaire, mais aussi qui s'inscrivait dans une histoire de l'abstraction, dans la volonté de créer des formes géométriques qui aient une dimension universelle, et on pourrait dire même presque, dans certains cas, avec une impulsion presque spirituelle, une relation avec les éléments, avec l'environnement, avec la course du soleil parfois, avec la nature souvent, et en tout cas avec le temps. Il y a une dimension philosophique dans son travail qui est absolument essentielle.
Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est une première étape de cette exposition spéciale concernant Gordon Matta-Clark. Alors, plusieurs livres qui témoignent des sources d'inspiration de l'artiste. Peut-être nous parler brièvement des sources d'inspiration de l'artiste.
Ce n'est que, par exemple, la psychanalyse.
C'est vrai que l'exposition s'ouvre sur une section que nous avons appelée « espaces intérieurs ».
Qui c'est intéressant.
Et qui s'organise autour d'un ensemble d'ouvrages qui étaient dans la possession de Gordon Mataclark et qui étaient consacrés à, la science... à la science de l'esprit ou aux explorations intérieures, à la question de l'inconscient. Et c'est vrai qu'on a souvent associé Gordon Mataclark plutôt à l'idée d'espace extérieur, donc à ces manières d'intervenir dans l'espace public, d'ouvrir des bâtiments, de créer du lien avec des communautés. Mais on connaît moins la dimension intime de l'artiste et son intérêt pour, on pourrait dire, les explorations intérieures, l'introspection
ou même l'alchimie,
son intérêt pour la question d'espace rêvé. C'est que dans la perception que nous avons de l'espace, il y a évidemment une dimension évidemment phénoménologique et aussi psychologique, et il était très intéressé à l'idée d'espace mental.
Ça c'est quelque chose qu'on voit maintenant. On voit maintenant que cette réflexion-là, qui était naissante à l'époque, s'actualise maintenant, là. Devient du concret maintenant.
Oui, c'est vrai qu'on est, on est soumis toujours à une avec les nouvelles technologies, avec nos téléphones portables, nos connexions permanentes, à une relation, comme disent certains philosophes aujourd'hui, psychopolitique à l'espace, où nous sommes souvent dans des espaces sans lieu. Des espaces virtuels.
Oui.
Et c'est vrai que ce qu'on appelle les réseaux sociaux sont certainement liés à des réseaux, mais ils sont aussi peut-être tous sauf sociaux. Ils sont en tout cas des espaces qui n'ont pas de lieu physique. Est-ce que
Mataclark qui trouve une place dans notre imaginaire
avait pointé déjà à l'époque, oui. C'est cette dislocation de notre rapport à l'espace,
oui.
Et qu'il pointait dans cette question vraiment de créer de l'expérience, de créer une expérience qui était à la fois une expérience physique, matérielle, mais aussi une expérience de pensée, une expérience intellectuelle de l'espace.
Absolument. Donc, personnage absolument fascinant. Il reste comme deux autres événements qui vont nous permettre de découvrir davantage toute l'ampleur de son œuvre. Quelles sont les deux étapes à venir qui ont nécessité, j'imagine, beaucoup de recherches?
La prochaine exposition sera organisée par Ila Peleg, qui est une commissaire d'exposition et documentariste qui va se consacrer à l'étude des chutes des films de Gordon Mataclark, des archives filmiques qui n'ont pas encore été montées ni montrées.
Alors, ça pique déjà ma curiosité au plus haut point.
Et puis oui. Kitty Scott, la commissaire suivante, qui est une commissaire et critique d'art, elle s'est intéressée aux photographies de Gordon Mataclark, qui, en fait, on le sait peu, mais a beaucoup voyagé et a beaucoup photographié au gré de ses voyages de recherche différents lieux, différents pays, différents paysages. Et l'exposition explorera cette figure de l'artiste en touriste, en errance, l'artiste en explorateur.
Déjà, ça fait rêver d'entendre cette troisième étape à venir. Et puis, j'imagine qu'il y avait tout un travail travail photographique, de documentation de toutes ces expériences en laboratoire.
Oui, absolument. Oui. C'est vrai que les œuvres de Gordon Mataclark ont laissé parfois peu de traces, car elles étaient souvent éphémères et monumentales. Et comme on dit, elles étaient situées. Elles étaient dans des bâtiments qui, pour la totalité, ont été par la suite démontés, détruits et ont disparu. Donc, ce qui nous reste de son œuvre...
Ce sont des archives.
Donc, des photographies, des films et des documents.
Oui.
D'où l'importance capitale de cette exposition.
Oui, une belle invitation d'ailleurs du Centre canadien d'architecture de revisiter ces archives qui ont été léguées en 2011. Hein. Alors, en terminant, peut-être nous présenter un petit peu votre parcours. Vous êtes commissaire et professeur à la Haute École d'art et de design à Genève.
Oui, c'est vrai que je partage mon temps professionnel entre ces deux activités, une activité d'enseignement et de recherche au sein de cette école d'art suisse, dont j'ai dirigé le département d'art visuel pendant 8 ans avant de me reconsacrer à une pratique d'enseignement et de recherche en histoire de l'art. Et je, par ailleurs, suis commissaire d'exposition, un curateur indépendant et un auteur, un critique d'art qui écrit sur le travail des artistes. Et c'est vrai que le fil rouge de mes recherches est essentiellement organisé autour de la passion que j'ai pour l'usage que font les artistes de l'archive, ou la manière dont on peut concevoir une archive non pas comme simplement une trace d'un événement passé, mais quelque chose qui peut être utilisé, transformé, et qui peut être un objet tourné vers le futur.
C'est tout à fait indiqué de faire appel à votre expertise pour réaliser cette exposition-là. Merci beaucoup, donc, Yann Chetagny, de nous avoir présenté cette exposition spéciale en trois temps consacrée à Gordon Mataclan. Bon retour à Genève.
Merci.